Bonjour à tous, bonjour les enfants. Dans un instant, vous allez entendre Céline et votre nouvelle histoire. Mais d'abord, j'ai une question pour vous. À votre avis, les amis imaginaires, ils existent? Sont-ils réels? C'est une bonne question, non? C'est le thème du film familial Blue et compagnie, où une jeune fille, qui s'appelle Béa, a le pouvoir de voir et d'échanger avec les amis imaginaires des autres. Une licorne, un marshmallow, un gros nounours, etc. Un énorme coup de cœur de toute l'équipe d'Encore une histoire que l'on vous recommande de tout notre cœur, Blue et compagnie, le 8 mai au cinéma. Maintenant, place à votre histoire.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable. Ça s'appelle « La guitare de Django », livre signé Fabrizio Silei et Alfred, aux éditions Sarbacane. En ce temps-là, à Paris, quand les dactylos rentraient chez elles, quand les marchands de fruits rangeaient leurs étals et que les pâtisseries descendaient leurs rideaux de fer, quand les allumeurs de réverbères montaient dans le dernier métro, que la nuit descendait sur la ville et que la tour Eiffel s'illuminait de publicité, alors s'éclairaient les cafés et les bals, les lampions et les nightclubs. Alors apparaissaient des peintres extravagants, des pickpockets à la main légère, des musiciens déchaînés, des diables rouges de cabaret et les belles danseuses des folies bergères. Le monde s'évanouissait et la musique devenait le monde. Et comme chaque soir, à la même heure, il fallait se mettre à sa recherche et le trouver presto.
Où est-il? Où est Django?
Je ne sais pas.
Comment ça, tu ne sais pas? C'est son tour dans une minute. Et toi, viens m'aider à mettre la main sur ce satané gitan.
C'était tous les soirs le même cinéma. Une vraie rigolade. Il fallait courir le chercher dans les cafés, les roulottes des manouches, autour des tables des billards. En ces années d'insouciance, Paris était plein de phénomènes. Et les dames des années folles, étourdies de valses musettes, s'impatientaient. Alors on courait dans ce monde souterrain, par des escaliers qui montaient, des escaliers qui descendaient. Quelqu'un l'avait-il vu? Quelqu'un savait-il où il pouvait bien être fourré? Il fallait absolument le trouver avant le début du spectacle.
Hé Maurice, pourquoi tu le jettes pas dehors ce petit sauvage?
Rigolait Narcisse, l'accordéoniste aveugle.
Tu veux rire? Ce garçon ira loin?
Lui répondait l'autre.
C'est le plus phénoménal des phénomènes! Et c'est mon phénomène!
Bah! J'en ai vu tant qui devaient aller loin et qui n'ont jamais bougé d'ici!
S'exclamait l'aveugle. Et il se remettait à rire comme un fou. Django ne savait ni lire ni écrire. Mais comme il jouait du banjo! Il était né dans une roulotte, au milieu d'un champ, parmi les tziganes et les musiciens ambulants. Mais comme il jouait du banjo! Dans tous les bals de Paris, on ne parlait que de lui et de son banjo.
Joue! Joue, Django!
Les histoires sur son compte filaient comme des hérons dans le crépuscule et devenaient légendes. On racontait qu'encore enfant, il avait écouté un accordéoniste interpréter 17 mélodies et que sur un pari, il les avait toutes rejouées dans l'ordre et sans une fausse note, avec un banjo plus grand que lui.
Sans blague, c'est impossible!
Je te jure que c'est vrai! Je l'ai vu de mes propres yeux!
Et puis, il y eut cette soirée maudite, où tout a basculé, et où le malheur a succédé à la joie. En apprenant ce qui s'était passé, certains avaient juré, d'autres craché par terre de rage. Et, chose incroyable parmi ces viveurs, quelques-uns avaient même prié.
Pauvre Django!
C'était ému Fredo Gardoni, un musicien de 130 kilos, à la bouche pleine de dents en or, qui avait trois femmes indomptables en même temps. Dire qu'il venait de signer un fabuleux contrat avec le chef d'orchestre Jack Hilton, le roi de la musique syncopée. Londres l'attendait pour le fêter, mais il n'ira jamais. Tant de chance et tant de malchance en une seule nuit. La rumeur avait couru comme un voleur de pommes poursuivi par un policier. Elle avait gagné les caves où l'on dansait, les mansardes où vivaient les pauvres et les poètes, les places ensoleillées, les gargotes enfumées, les marchés bruyants, les couloirs venteux du métro, les cafés où les joueurs de cartes et les chômeurs passaient leur journée. Ce même jour, un homme en costume blanc était apparu comme par enchantement à la Java, le club où jouait Django, accompagné d'une nuée de jolies femmes vêtues à la dernière mode. Et Django avait signé le fabuleux contrat d'une simple croix. Et il avait rejoint sa roulotte de nomade en rêvant à sa nouvelle vie.
Mais comment cela a-t-il pu arriver ?
Avait demandé Bréau, qu'on surnommait la grenouille, parce qu'il buvait de tout, sauf de l'eau.
J'en sais rien. Une bougie, peut-être. Ou un mégot de cigarette.
Juste au moment où la chance lui souriait, sa roulotte avait pris feu. Il avait failli mourir, comme meurent les tziganes quand les nuits d'hiver sont si rudes et qu'il faut se risquer à dormir trop près du feu. Les siens l'avaient sauvé en le retirant des flammes, comme on retire du bûcher un bout de bois à moitié brûlé. Sa main gauche et sa jambe droite étaient dans un sale état. «
Si nous n'amputons pas tout de suite, ça va s'infecter, vous mourrez !»
avaient affirmé les docteurs. Django n'avait que 18 ans, mais il avait la tête dure.
« Plutôt mourir que renoncer à jouer. Laissez-moi »
avait-il répondu. Les amis de Django s'étaient réunis autour de Louis Péguri, un drôle de zig, qui en même temps qu'il jouait, dévorait des carottes crues avec leurs feuilles devant un public médusé. Louis regarda l'assistance, croqua dans sa carotte et il dit
Faisons une collecte. Il va falloir plusieurs mois pour se remettre. Il a deux doigts paralysés. Il ne pourra plus jamais jouer. Et sa femme attend un enfant.
Pauvre Django. Un tzigane sans sa guitare, c'est comme une ville sans habitants,
dit un autre, surnommé la Bagouze, parce qu'il portait au petit doigt une bague énorme sertie d'un diamant étincelant, qui éblouissait le public quand il jouait à l'Ange Rouge de Montmartre. Au bord des larmes, la Bagouze renifla et sortit de sa poche une poignée de billets. La collecte terminée, quelqu'un demanda
« On y va ensemble ?»«
Oui !»
répondirent les autres. Et ils entrèrent tous ensemble dans la chambre d'hôpital, apportant une enveloppe remplie de billets froissés qu'ils remirent à la femme de Django. Joseph, son frère, était parmi eux. Et moi aussi. Joseph me tenait dans ses bras.
« Django !»
dit-il.
« Je t'ai apporté un cadeau !»
Et il m'a posé sur son lit. Django fronça les sourcils. « Comment jouer de la guitare ?» Avec deux doigts seulement.
Le banjo a des cordes trop dures. Avec la guitare, peut-être...
A bredouillé Joseph. On me relégua sur une chaise, dans un coin. Puis ce fut la valse triste des au revoir, des sourires forcés, des têtes d'enterrement. Une procession de pardessus froissés, d'yeux luisants, d'habits rapiécés, d'où émanait une odeur de rue et de poussière. C'est alors qu'une infirmière entra et dit...
« Allez, Oust !»
les chassant comme une bande de volailles. Nous restâmes seuls, mon manouche et moi. Il me regardait. Parfois, il pleurait. Il regardait sa pauvre main tordue, comme une serre de rapace, et il pleurait. Comme il était beau, avec ses fines moustaches, à la Clark Gable. Puis, un jour, sa femme arriva avec un étrange paquet. Il prit doucement le paquet dans ses bras et il sourit. Pour la première fois depuis la tragédie, il sourit. Son fils était né et Django souriait. Dans les yeux noirs de l'enfant, il y avait l'infini de l'océan Indien et la magie des forêts de Tamari. Les reflets brillants des danseuses de Degas et des myriades de promesses, des sommes d'amour et de félicité. Comme sa femme allait quitter la chambre, il la rappela et lui dit
« Passe-moi la guitare. »
Elle obéit sans avoir le courage de croiser son regard et s'enfuit, les larmes aux yeux. Il ne lui restait que deux doigts pour faire vibrer mes 6 cordes. Mes cordes étaient molles et ses doigts durs, hésitants. Sa main était comme une araignée estropiée, un train sans roues. Le Django élégant, vêtu d'un costume chic et chaussé de voyantes bottines aux talons rouges, n'était plus qu'un souvenir. Ses deux doigts encore faibles, nus et blancs comme les jambes d'une funambule sur son fil de fer, se mirent à sauter d'une corde à l'autre, tentant des acrobaties. Mais la frêle danseuse était gauche comme un éléphant et n'arrêtait pas de tomber. Malgré tout, courageusement, elle remontait du fond des filets de protection jusqu'au sommet du chapiteau. Là où les visages des spectateurs ressemblent à des têtes d'épingle, à des notes noires et mouvantes égrenées sur le pourtour des gradins. Un mois encore, et les pas se firent plus précis. Déjà, la ballerine faisait des enjambées de gazelle, et comme un danseur noir habité par le rythme, sautait sur mes cordes dans un frénétique tip-tap. Et ses doigts-là étaient bien plus que deux, parce qu'ils couraient en tous sens sur mon manche, si vite qu'on ne pouvait plus les compter. Au bout de 4 mois d'hôpital, les deux doigts étaient devenus les jambes nerveuses et sveltes de deux amants dansant le tango. Un mois de plus, et ils osaient les figures les plus audacieuses. 6 mois plus tard, nous sortîmes ensemble de l'hôpital, enlacés comme deux amants. Et notre secret faisait battre à l'unisson son cœur de chair et mon cœur de bois.
Il joue ! Il joue !
Le mot était magique dans toutes les bouches. Il joue et c'est magnifique.
Mais comment fait-il avec seulement deux doigts ? Deux doigts, oui, mais qui semblent être 1000 quand il joue.
Ses amis nous rendaient visite exprès pour le voir jouer. Lui fumait, le sourire aux lèvres, et ses doigts, ses deux doigts, couraient et sautaient d'une corde à l'autre, pareil à des kangourous australiens, des bouquetins suisses, des chevaux afghans, des danseuses tziganes, des sauterelles et des grenouilles. Et cela n'avait rien à voir avec un quelconque phénomène de foire. C'était de la vraie musique.
Et quelle musique !
Les spectateurs ébahis écoutaient la mâchoire pendante, les oreilles grandes ouvertes, les yeux fixés sur ses mains de prestidigitateurs. Et ce fut comme si on entendait jouer de la guitare pour la première fois. Et l'on découvrit une nouvelle façon de jouer, la sienne, avec ses doigts survoltés qui battaient le tempo sans avoir besoin d'être accompagné d'une batterie ou de percussion, parce qu'il savait tout faire. Et l'on entendit une musique comme jamais on en avait entendu. Un nouveau jazz qu'on venait de loin écouter. Avec son smoking super classe et ses bottines à talons vert lézard métallisés, Django fit parler de nous dans tout Paris, à Londres et dans toute l'Europe, et même jusqu'en Amérique. C'est là-bas qu'il rencontra le public le plus exigeant. Il avait passé la journée à flâner dans les rues de New York, et le soir, libre et serein, il avait rejoint sur scène Duke Ellington, le roi du jazz américain. Et le tzigane de la zone, qui avait inventé une manière unique de jouer de la guitare, serra la main à cet autre génie qu'était Duke. Puis, il s'assit et me prit dans ses bras avec douceur, comme on embrasse une femme aimée. Je sentis ses doigts se poser sur mes cordes, tandis que le silence se faisait dans la salle. L'Amérique regardait. La patrie du jazz tendait l'oreille vers le prodige et, l'instant d'après, se laissa emporter par sa musique. Duke Ellington marquait le rythme au piano en acquiesçant de la tête. Et moi, j'étais là, avec eux. J'étais la guitare de Django. La guitare du plus grand guitariste de tous les temps. Voilà, c'était La guitare de Django, livre signé Fabrizio Silei et Alfred, aux éditions Sarbacane. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne de podcast, à nous noter ou demandez-le à vos parents, ça nous encourage beaucoup pour la suite. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, raconté par Céline Kallmann, c'est moi, et produit par Benjamin Muller. Le montage est signé Théo Albaric et la musique, on la doit à l'excellent Raphaël Dubert. On se retrouve sur notre compte Instagram, celui d'Encore une histoire. Et si vous souhaitez nous suggérer des thèmes de livres que vous aimeriez bien écouter en podcast, on est preneurs d'idées. À très bientôt.